RFI 8h à Port-au-Prince. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 13h en temps universel.
RFI midi.
Charlotte Idrac.
L'actualité des Amériques avec l'état d'urgence décrété sur tout le territoire en Haïti à partir de dimanche et pour un mois, conséquence de l'insécurité qui persiste, des gangs qui s'en prennent notamment aux structures sanitaires. Dernier exemple en date, le saccage de l'hôpital Bernard Meuse de Port-au-Prince cette semaine. Il doit continuer à exister, c'est ce que dit son administratrice générale, vous l'entendrez. Le fléau des extorsions en Équateur, on appelle ça la vacuna, le vaccin, en clair c'est du racket organisé, reportage à suivre. Notre rendez-vous des Caraïbes avec nos confrères de la première. Au programme Edwige Saint-Thomas, la population de Martinique continue de diminuer.
Oui, constat dressé par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, dans sa dernière publication chaque année. Depuis 2016, l'île perd au moins 1% de sa population chaque année. Donc.
À tout à l'heure, tout de suite le journal avec Gilles Moreau.
RFI Midi.
Et à la une aux États-Unis, le risque de shutdown, de paralysie budgétaire qui se précise.
Oui, il pèse en effet comme une épée de Damoclès après le rejet d'une proposition républicaine au Congrès. Un texte visant à éviter un blocage de l'État fédéral avant la date limite, vendredi soir, minuit. Majoritaire à la Chambre des représentants, les élus républicains l'avaient soumis au vote après le torpillage par Donald Trump et Elon Musk d'un autre projet négocié avec les démocrates. Correspondance de Loubna Anaki.
Un vote pour rien, et maintenant, quelle solution ? À Washington, dans les halls du Congrès, c'est une nouvelle fois le chaos et les élus sont profondément divisés, un sentiment de déjà-vu. Le chef de la majorité républicaine de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a tenté de faire passer cette nuit un texte modifié incluant la demande de Donald Trump de relever le plafond de la dette, une proposition qui n'a pas réussi à rassembler les deux tiers de voix nécessaires. 38 républicains ont notamment voté contre, alors que Donald Trump avait appelé son parti à soutenir cette version. Mike Johnson va donc poursuivre les négociations alors qu'il ne reste que quelques heures pour éviter un shutdown. Côté démocrate, on accuse Donald Trump et Elon Musk d'avoir fait échouer un budget de compromis négocié de haute lutte alors qu'ils ne sont même pas encore au pouvoir. S'il y a un shutdown, ce sera entièrement de la faute d'Elon Musk et de Donald Trump, a affirmé Hakeem Jeffries, le chef de la minorité démocrate à la Chambre. Loubna Anaki, New York, RFI.
Le pays est au bord de la paralysie budgétaire avec à la clé le chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires américains, le gel de certaines aides sociales ou bien encore la fermeture de crèches. Situation extrêmement impopulaire à l'approche de Noël.
Après la chute du régime de Bachar el-Assad, l'espoir d'une Syrie unifiée se joue désormais dans le nord du pays.
Oui, là où les combats ont repris autour de la ville de Manbij entre les rebelles de l'armée nationale syrienne soutenue par la Turquie et les miliciens kurdes. Le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, qui a conduit les rebelles jusqu'à Damas, prépare un assaut conjointement avec des factions de l'armée nationale syrienne. Reportage à Manbij de Manon Chaplin.
C'est au milieu d'une dizaine de silos à grains éventrés par les bombes que les combattants se préparent à l'assaut. Abou Abdou Hamsar, le chef de l'unité Al-Hamza, l'une des nombreuses factions qui composent l'armée nationale syrienne, donne les dernières instructions à ses hommes. La zone théâtre des combats qui ont chassé les forces armées kurdes le 9 décembre n'est pas totalement sécurisée.
Ils ont creusé des tunnels partout sous la ville. Nous ne savons pas combien exactement. Ils sont trop nombreux. Ils peuvent sortir à tout moment. Il y a deux ou trois jours, un soldat du PKK est sorti de ce tunnel juste ici et a tiré sur deux de nos hommes.
À leur côté, un drapeau jaune des combattants kurdes brûle sur le sol. L'objectif désormais, c'est de lancer l'assaut en direction de Tishrin à l'est afin d'atteindre Kobané, le bastion kurde en Syrie. L'heure est encore aux négociations, explique le chef de guerre.
Ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est que les soldats déposent les armes. Ensuite, bien sûr, les Kurdes pourront obtenir des postes dans le nouveau gouvernement. Mais cela se fera dans le cadre des règles et des lois de ce pays.
Manbij ne connaît que trop bien la guerre, tour à tour champ de bataille de l'État islamique, bombardé par Moscou, victime des combats qui ont mené à la reprise de la ville par les Kurdes en 2016. Désormais, les habitants n'aspirent qu'à une chose, la paix, comme Bassim qui prend un thé sur les abords d'une route.
Nous en avons assez du sang et de la guerre. Nous avons besoin que chacun s'entende pour une solution pacifique. Cela fait 13 années que nous endurons l'horreur et la mort.
Depuis quelques jours, les combats à proximité de Manbij se multiplient. Les deux camps s'accusent mutuellement de rompre le cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Manon Chaplin, de retour de Manbij, RFI.
Et à propos des États-Unis, des diplomates américains sont arrivés ce matin en Syrie pour y rencontrer les nouvelles autorités. Cette délégation est la première dépêchée à Damas par les États-Unis depuis le début de la guerre civile il y a 13 ans. Au terme de sa visite de deux jours, Emmanuel Macron a présidé ce matin une réunion de la cellule interministérielle de crise sur Mayotte, l'archipel français dévasté il y a 6 jours par le cyclone Chido. Le président a été confronté sur place à l'impatience, la colère et le désespoir de Mahorais qui ont souvent perdu. Le bilan provisoire fait toujours état de 31 morts et quelques 2500 blessés.
En France, Noël approche. Le nouveau gouvernement sera en place d'ici là.
Et oui, c'est en tout cas ce que veut croire le Premier ministre François Bayrou, dont la partie de bras de fer continue avec les partis politiques. Malgré une réunion jugée décevante hier après-midi à Matignon, la gauche laisse encore la porte ouverte. Elle demande des compromis pour un accord de non-censure. De son côté, le parti de droite, Les Républicains, réclame un ultime échange avec François Bayrou. Victorien Villaume, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour tout le monde.
Les LR, Victorien, en font un préalable avant leur éventuelle participation.
Oui Gilles, ils ont obtenu gain de cause. Un nouvel entretien doit se dérouler cet après-midi. Les Républicains vont demander à nouveau des clarifications sur plusieurs sujets, à commencer par la sécurité, par la dette, mais la participation en réalité de la droite au gouvernement Bayrou fait peu de doute. Les conditions sont plutôt réunies, dit désormais le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, à ses députés. Et le fait que François Bayrou souhaite conserver le très conservateur Bruno Retailleau au gouvernement aide, évidemment. Dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on nous affirme même que toutes les conditions sont réunies pour son maintien. Il aurait obtenu, je cite, la garantie de pouvoir continuer son travail contre l'immigration illégale, Gilles.
Parlez-nous maintenant de l'ambiance à gauche.
Alors à gauche, on exclut de façon catégorique depuis le début une entrée au gouvernement. Le projet, c'est plutôt celui d'un éventuel accord de non-censure. Et pour ça, les écologistes, par exemple, réclament des garanties contre les plans de licenciement pour la transition écologique. Et si les écologistes reconnaissent que François Bayrou a tendu des perches à la gauche hier avec sa proposition de discussion sur la réforme des retraites, cette offre est qualifiée de piège. Bayrou essaie de gagner du temps en laissant entendre qu'il pourrait y avoir un changement, confié à RFI une élue écologiste.
Merci Victorien Villaume du service politique. Et sachez pour finir que la France n'est pas la seule. La Belgique passera Noël sans gouvernement. Le roi Philippe a en effet pris acte de la nécessité de prolonger les négociations entre les 5 partis qui tentent depuis 6 mois en Belgique de former une coalition majoritaire.
L'EPR de Flamanville est maintenant opérationnel.
Oui, c'est aujourd'hui qu'EDF, la compagnie nationale d'électricité, est raccordée à ce réacteur nucléaire nouvelle génération. La France a pour projet de construire 6 autres EPR, plus 8 en option. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
À l'échelle mondiale maintenant, après des années de décrue, eh bien, l'atome retrouve des couleurs, même si on est loin, Simon, de la ruée vantée par ses promoteurs.
Et oui, car l'objectif est ambitieux, tripler la capacité de production nucléaire d'ici 2050. C'était le but affiché par une 20aine de pays il y a un an lors de la COP28 à Dubaï. Ambitieux donc, mais techniquement faisable, assure l'Agence internationale de l'énergie atomique. En 2024, le nucléaire produisait près de 10% de l'électricité mondiale grâce à 440 réacteurs sur la planète d'une puissance totale de 370 gigawatts. Pour multiplier ce dernier chiffre par 3, il faudra cependant mettre les bouchées doubles. Cela passera tout d'abord par retirer le moins possible de réacteurs existants du réseau, prolonger leur durée de vie au maximum jusqu'à 80 ans. Or, le plus ancien en fonctionnement n'a que 54 ans et en moyenne, on enferme un passé 43 ans. Bref, les enjeux de maintenance et de sécurité ne sont pas anodins. Ensuite, il faudra évidemment construire des investissements lourds à la fois financièrement et dans le temps. Seuls 5 gigawatts avaient été ajoutés au réseau l'an dernier. Il faudrait entre 25 et 30 pour tenir l'objectif. L'ordre de grandeur n'est pas le bon, même si les annonces sont plus nombreuses. Il y a aujourd'hui 60 réacteurs en construction dans le monde, 343 autres sont planifiés et des centaines d'autres à l'étude, dont les nouveaux EPR français.
Simon Rosé du service environnement de la rédaction, c'est la fin du journal. Très bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie de Charlotte Hydrac.
Et à tout à l'heure pour un prochain journal, presque 14h10 ici à Paris.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Haïti, de nouveau bientôt sous état d'urgence. Il a été instauré, décision du Conseil présidentiel de transition. C'est à la une de votre revue de presse, Christophe Paget.
Oui, état d'urgence pour un mois à partir de ce dimanche, précise Alter Press. Objectif, faciliter les diverses interventions des forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité et faire face à la crise agricole et alimentaire du pays. Le Nouvelliste revient d'ailleurs sur l'impact de l'insécurité sur l'économie et l'agriculture dans le département de l'Artibonite. Il cite l'entrepreneur Gary Dalencourt qui s'exprimait hier dans l'émission Panel Magique. Les agriculteurs peinent à accéder aux semences et aux engrais. La production agricole est en chute libre, exacerbée par l'isolement causé par les activités des gangs.
Et illustration de cette insécurité, le saccage de l'hôpital Bernard Meuse de Port-au-Prince, incendié en début de semaine par des membres des gangs armés. Cet hôpital de référence qui était réputé pour avoir les technologies d'imagerie médicale les plus performantes d'Haïti. Aujourd'hui, tout ou presque est parti en fumée. Vincent Souriau a joint Kathleen Séjour-Petit, administratrice générale de l'hôpital Bernard Meuse, qui n'a pas pu se rendre sur place.
On a essayé lundi matin, mais il y avait des tireurs. On n'a pas pu investir l'espace parce que les policiers sont là, effectivement, mais c'est difficile d'investir l'espace en ce moment à cause des tirs et tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fumée. Jusqu'à présent, il n'y a pas de pertes en vie humaine qu'au niveau des patients, des employés. Donc, on ne veut pas risquer des vies. Là, je suis un peu choquée, je suis un peu anéantie, les mots me manquent. C'est un bloc, tout un bloc opératoire qui a été incendié, le laboratoire, la salle d'imagerie et la pédiatrie. La pédiatrie, c'est un désastre. Quand on voit les enfants qui sont vraiment défavorisés, qui n'ont pas d'endroit exactement où aller, Bernard Meuse était une grande référence pour tous, pour tous, pour tous, quelles que soient les malformations congénitales, les accidents de la voie publique, les plaies par balles, les hydrocéphalées, les problèmes neurologiques, etc., etc. Et il n'y avait pas de discrimination au niveau de Bernard Meuse. Quelle que soit la personne, peut venir prendre des soins, qu'il soit bandit, honnête homme, fonctionnaire de l'État et le secteur privé, la bourgeoisie, les défavorisés. Il n'y avait pas de classe à Bernard Meuse. On ne pouvait pas imaginer une chose pareille. C'est la raison pour laquelle qu'on était resté 289 employés. Ils n'ont plus d'emploi. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout facile. C'est dur. Mais Bernard Meuse, c'est nous autres. Ce sont les employés. Bernard Meuse, ce sont les patients. Bernard Meuse, c'est la population haïtienne. Donc, Bernard Meuse existe. Bernard Meuse existe. L'espace, oui, a été attaqué, a été saccagé, a été incendié. Mais Bernard Meuse doit continuer à exister. Parce que c'est notre mission, la mission de donner des soins de qualité à tous.
Bernard Meuse doit continuer à exister. Kathleen Séjour-Petit, administratrice générale de l'hôpital avec Vincent Souriau. Et on reste en Haïti pour la suite de votre revue de presse, Christophe Paget. Un conseil national de sécurité a été établi.
Oui, enfin, soupire le national. Ce conseil était prévu dans l'accord du 3 avril pour une transition pacifique. Ce nouvel organe exprime la primature. Composé d'experts nationaux, de professionnels de la diaspora et d'autres personnalités qualifiées, aura pour mission d'apporter des réponses globales et coordonnées à la crise sécuritaire. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre décident de beaucoup de choses et procèdent à des nominations, estime Franz Duval dans le Nouvelliste. Mais pour le moment, dans les faits, rien n'impacte la vie de la population. Le pays vit avec d'un côté ceux qui prennent des coups et de l'autre ceux qui ne parviennent pas à les aider. Le National relève d'ailleurs que les camps de déplacés se multiplient à Port-au-Prince après les attaques par les gangs de postes marchands et balalus qui ont contraint des milliers de familles à quitter leur demeure. Et dans ces camps, les conditions de vie sont lamentables, ce qui se désole le quotidien. Contribue à aggraver la souffrance des déplacés.
On en parlait dans le journal Shutdown en vue aux États-Unis. Notre correspondante Lubna Anaki nous le disait, le chef de la majorité républicaine a tenté de faire passer un nouveau texte pour éviter une paralysie de l'État fédéral. Ce texte incluait la demande de Donald Trump de relever le plafond de la dette, mais il a été rejeté et largement.
Largement parce que, écrit le New York Times, 38 députés républicains ont défié Trump en ajoutant leur voix à celle des démocrates.
dans ce que le quotidien considère comme un test sur l'emprise du président élu sur son parti. D'autant que cette défiance n'est pas venue des quelques républicains modérés qui ont par le passé attiré, concentré la colère de Donald Trump, mais bien de conservateurs qui normalement alignent leurs vues sur les siennes. On verra l'an prochain s'il s'agit d'un simple hoquet ou si c'est tout le programme du président qui est en danger, car, rappelle le New York Times, il suffira d'une poignée de républicains pour couler son agenda à la Chambre ou au Sénat.
Et alors, en attendant, les républicains cherchent un plan C pour éviter ce shutdown.
Oui, plus précisément, les républicains qui veulent continuer à être dans les bonnes grâces du président élu, écrit The Hill, comme par exemple Mike Johnson, le président de la Chambre, dont le poste est, selon Politico, en danger après ce fiasco. Des mois de travail pour obtenir le soutien de Donald Trump ne l'ont pas totalement protégé de sa colère. Par contre, cette bataille autour du budget montre l'influence d'Elon Musk sur le gouvernement, estime USA Today, qui titre même sur le président élu Musk. Car c'est bien le patron de Tesla qui s'est attaqué le premier et très violemment à la première mouture du projet de loi de financement issu d'un accord bipartisan, la noyant sous un tsunami de plus de 100 postes, et ce 12 heures avant que Donald Trump lui-même n'intervienne. Pour le Washington Post, cet épisode souligne les ramifications politiques du rôle sans précédent que Musk a joué dans l'élaboration de l'administration Trump. Il s'est prononcé sur les choix de ministres, a participé à des réunions avec des chefs d'État et agit désormais en tant qu'exécutant de l'agenda politique de Trump au Capitole.
Et donc l'heure tourne aux États-Unis, ce risque de shutdown avant ce soir. La date limite, c'est ce soir à minuit. On part au Venezuela où l'un des 6 opposants réfugiés dans l'ambassade d'Argentine s'est rendu aux autorités.
Selon le canal NTN24, sa sortie de l'ambassade résulte d'une large négociation internationale. Il se trouverait maintenant chez lui, mais la chaîne ne précise pas s'il est pleinement libre ou en liberté surveillée, note El Nacional. Fernando Martinez Motola s'était réfugié dans l'ambassade d'Argentine à Caracas quelques jours après la présidentielle du 28 juillet, avec 6 proches de Maria Corina Machado. Tous étaient accusés de conspirer contre le gouvernement de Nicolas Maduro, déclaré vainqueur du scrutin, une victoire revendiquée aussi par l'opposition. Mais Fernando Martinez Motola était le seul à ne pas appartenir à Bente Venezuela, le parti de la chef de l'opposition, Maria Corina Machado. Le site Alberto News croit d'ailleurs savoir que dans l'ambassade, l'opposant avait des problèmes relationnels avec le reste du groupe parce qu'il refusait de participer à leurs actions politiques.
Revue de presse des Amériques signée Christophe Paget, toujours à propos du Venezuela. L'Espagne a confirmé, a accordé officiellement l'asile à l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia, candidat face à Nicolas Maduro lors de cette présidentielle du 28 juillet. Direction l'Argentine, où Javier Milei continue de passer l'État à la tronçonneuse. En début de semaine, le ministère de la Justice a annoncé le licenciement de 2400 employés qui viennent s'ajouter aux 35 000 fonctionnaires licenciés depuis le début de l'année. Alors hier, les syndicats de la fonction publique avaient appelé à la mobilisation en face du ministère de la Justice. Reportage sur place, Théo Conscience.
La colère gronde au rythme des tambours devant le ministère de la Justice à Buenos Aires. 2400 licenciements, des réductions salariales pour 90% des employés restants. Après 16 ans au secrétariat des droits humains, Mariano a appris cette semaine qu'il était licencié sans indemnité.
Nous sommes des pères et des mères de famille, nous avons des enfants et nous allons nous retrouver sans revenus le mois prochain. Donc nous demandons que la loi soit respectée et que nous recevions une juste indemnisation.
En plus de la dimension humaine de cette nouvelle vague de licenciements, ce sont aussi les politiques publiques et les services assurés par le ministère de la Justice qui vont être affectés, rappelle Paola Donadio, délégué syndical.
Les espaces de mémoire de la dictature, l'assistance juridique aux victimes de violations des droits humains, l'accès à la justice. Le ministère a des centres d'accès à la justice sur tout le territoire, mais avec autant de licenciements, la tension dans ces centres va énormément diminuer.
Alors que les vagues de licenciements se succèdent depuis un an, le gouvernement a décidé que tous les fonctionnaires devraient passer un examen d'aptitude. Le seul objectif, estime Mariano, c'est de nous humilier et de nous stigmatiser publiquement. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
RFI, la suite de notre journal d'Haïti et des Amériques. On l'appelle la vacuna en Équateur. Ça veut dire le vaccin, c'est une image pour parler en clair d'extorsion, de rackets par des criminels. Ce phénomène de la vacuna s'est étendu donc en Équateur et touche toutes les catégories de population. Et c'est ce qu'a constaté notre correspondant Eric Sanson.
Mauricio Núñez est l'un des chanteurs de musique romantique les plus populaires en Équateur. Il forme avec son frère un duo dont le succès n'a pas échappé au maître chanteur.
Obtiennent les numéros parce que les numéros sont de domaine public.
Nos numéros de téléphone sont souvent connus du public. Les délinquants nous appellent, nous menacent, nous demandent de l'argent. Moi, j'étais victime de la vacuna avec mon frère. La première fois, on a accepté de payer. La deuxième, on a porté plainte auprès du parquet et ils ne nous ont plus contactés. Ils demandaient 1000 dollars par mois.
Bueno, desde ahí ya no nos han llamado. La primera vez me pidieron 1000 dólares mensuales.
Les journalistes et les médias ne sont pas épargnés par les groupes de délinquance organisés ou par les délinquants de droit commun se faisant passer pour des mafieux, comme c'est arrivé à Isabella Ponce, éditrice du portal GK.
Après une première menace un jeudi, j'ai reçu un autre message samedi, mais la police nous a dit que l'information qu'ils utilisaient pour leurs menaces provenait d'Internet. Ça nous a tranquillisés et on a porté plainte auprès du parquet. Ils nous demandaient de l'argent pour toute publication à leur sujet.
Les villes de la côte sont particulièrement touchées par le phénomène de la vacuna. À Guayaquil, les gens doivent parfois payer pour le simple fait d'avoir une maison. Victor Pinta a une épicerie dans le sud de la ville depuis près de 9 ans.
Ils rackettent tous les commerces, même les plus petits. Ils demandent une collaboration pour nous protéger, mais qui sont-ils pour nous protéger ?
Victor, lui, a décidé de ne pas payer et n'hésite pas à témoigner à visage découvert. Il est constamment menacé et change de numéro de portable en permanence.
Ils m'ont attaqué 3 fois. Ils ont d'abord envoyé une cartouche de dynamite qui n'a pas explosé. Une semaine plus tard, ils ont réessayé près du garage et cette fois-ci, ça a explosé. Et puis, ils ont essayé de mettre le feu. Non, je ne vais pas payer avec la bénédiction de Dieu. Mes voisins du quartier me soutiennent. Si on voit des suspects, on sonne l'alarme et on essaie de les capturer pour les remettre à la police.
D'autres préfèrent ne pas lutter et quitter le pays. C'est le cas d'une jeune femme rencontrée alors qu'elle venait de passer la frontière dans la ville texane de McAllen et qui préfère rester anonyme. Elle était propriétaire d'une petite papeterie à Quito.
Les extorsions ont commencé par du chantage au vol de marchandises. Ils demandaient 300 dollars par semaine alors que j'en gagne 80 quand les ventes vont bien. Mais il faut payer, sinon tu meurs.
Cette jeune femme est aujourd'hui aux États-Unis avec son conjoint et leurs 2 enfants. Moins de travail, moins d'emplois et de ressources en Équateur. Le secteur rural est cependant moins touché, selon Flor Cordova de la communauté indigène d'Iluman.
Dans les communautés indigènes, les racketteurs sont punis avec de l'eau glacée, ils sont fouettés avec des orties, ils sont battus. Parfois, ils sont offerts à la Pachamama, la déesse de la terre, enterrés vivants.
Comme offrande à la Pachamama.
Le long de la frontière nord, l'évolution du trafic de drogue a augmenté le nombre d'extorsions, selon Pablo Iturralde, directeur de l'ONG Tierras para Todos.
La vacuna sur la frontière nord a augmenté lorsque les routes blanches, les routes d'exportation de la cocaïne, n'ont plus été terrestres mais maritimes via le Pacifique. Tous ces jeunes qui étaient guetteurs ou trafiquants ont perdu leurs revenus et ont commencé à extorquer les professeurs, les petits commerces, le transporteur local avec sa camionnette.
Un phénomène qui explique pourquoi les Équatoriens sont de plus en plus nombreux à émigrer vers les États-Unis avec ou sans papier. Éric Sanson, Quito, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Edwige Saint-Thomas, pour l'actualité des Caraïbes, comme prévu. Et à la une, c'est la Martinique, donc, qui continue de perdre des habitants.
Oui, le dernier recensement de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, confirme ce déclin démographique. Le phénomène n'est pas nouveau. Claude Gracien, Martinique la première.
Au 1er janvier 2022, notre île comptait un peu plus de 369 000 habitants. Ça représente pas loin de 16 000 personnes en moins par rapport à 2016. En gros, chaque année depuis 2016, la Martinique perd près de 1% de sa population et cela est dû à des personnes qui quittent notre île alors que les arrivées sont moins nombreuses. Ce sont surtout des jeunes qui s'en vont pour suivre des études ou rechercher un travail et cela majoritairement dans l'Hexagone. Les communes les plus touchées par ce déclin, celles de la côte atlantique, tout comme Fort-de-France, ville la plus peuplée. C'est elle qui perd le plus grand nombre d'habitants depuis 2016, près de 6 000.
La Guadeloupe n'échappe pas non plus à ce repli démographique. Le phénomène se poursuit également dans le territoire. Depuis 2016, la population de l'archipel diminue en moyenne de 0,5% par an, soit 10 500 habitants de moins en 6 ans, toujours selon l'INSEE. Le trafic aérien se porte, lui, plutôt bien. À l'aéroport de Guadeloupe, Maryse Condé, plus d'1 094 000 passagers y ont transité au mois de novembre. Une légère hausse de 0,06% par rapport à l'an dernier. Progression timide qui concerne particulièrement certaines destinations. Franck Aristide, Guadeloupe la première.
En hausse, le trafic avec l'Hexagone, 4,5% de passagers de plus par rapport à l'an dernier. La haute saison touristique 2025 s'annonce sous de meilleurs auspices que celle de 2024. Toujours à l'international, Montréal et Miami affichent également de meilleurs résultats avec un quart de passagers en plus sur cette même période. Alors qu'à l'inverse, plus généralement, le trafic Amérique du Nord est lui en recul. C'est la conséquence du retrait de la compagnie JetBlue qui assurait la saison dernière plusieurs liaisons hebdomadaires avec New York. Sur le régional, cette fois, ce sont les îles du Nord et singulièrement Saint-Barth, plus 18%, qui voient leur courbe s'envoler en raison de l'augmentation de l'offre aérienne. Le retour des Antilles et l'arrivée de Saint-Barth exécutif sur la destination. La Caraïbe également voit ses chiffres croître quelque peu, mais la donne pourrait encore s'améliorer dès ce mois-ci avec l'arrivée de Caribbean Airlines qui dessert désormais la Dominique, Barbade, Sainte-Lucie et Trinidad. Enfin, l'axe Martinique-Guyane reste, lui, quasiment stable.
Des explications signées Franck Aristide de Guadeloupe, la première. C'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée, Edwige Saint-Thomas. À suivre sur RFI, on va retrouver Catherine Fruchon-Toussaint pour Littérature sans frontières. D'ici là, Emilio du Canadien Elliott Maginot, il sera en concert ce soir à Montréal. Maginot et son titre Emilio, le chanteur canadien, sera donc en concert ce soir à Montréal. à suivre Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon-Toussaint. Merci à Vincent Bito qui a réalisé RFI Midi, émission préparée avec Emmanuel Klotz notamment et Najat Daguerre. Je vous souhaite une très très bonne journée à l'écoute de nos programmes.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.